그래도
Les adorations qu'on fait à la déesse Durga et Kali, est-ce qu'ils ont quelque valeur spirituelle?
Ça dépend de qui fait l'adoration.
C'est une symbole vieille, non?
Ce n'est pas ça qui importe pour la valeur spirituelle. C'est pour l'intégralité et la vérité complète du yoga qu'il est important de ne pas limiter son aspiration à une forme ou à une autre. Mais au point de vue spirituel, quel que soit l'objet de l'adoration. Si le mouvement est parfaitement sincère, si le don de soi est intégral et absolu, le résultat spirituel peut être le même, parce que quel que soit l'objet que vous prenez, à travers lui, quelquefois même malgré lui, en dépit de lui, vous atteignez toujours à la réalité suprême, dans la mesure et en proportion de la sincérité de votre consécration. C'est pour ça qu'on dit toujours que, quel que soit l'aspect du divin que vous adorez, quel que soit même le guide que vous choisissez, si vous êtes parfait dans le don de vous-même et absolument sincère, vous êtes sûr d'arriver au but spirituel. Mais là où le résultat n'est plus le même, c'est si vous voulez réaliser le yoga intégral. Alors, il ne faut pas vous limiter d'aucune manière, même dans le chemin de votre consécration. Seulement, ce sont deux choses tout à fait différentes. La réalisation spirituelle, c'est telle qu'elle était conçue autrefois, telle qu'elle est encore conçue généralement. C'est l'union avec le suprême d'une façon quelconque, ou au-dedans de vous, ou à travers une forme quelconque. C'est la fusion de votre être dans le suprême, dans l'absolu. Presque la disparition de votre individualité dans cette fusion. Et ça, ça dépend absolument de la sincérité et de l'intégralité de votre, du don de vous-même, plus qu'au choix que vous faites de ce que vous, ce à quoi vous voulez vous donner. Parce que la sincérité même de votre aspiration vous fera traverser toutes les limitations et trouver le suprême puisque vous le portez en vous-même. Que vous le cherchiez au dehors, que vous le cherchiez au dedans, que vous le cherchiez sous une forme, que vous le cherchiez sans forme, si votre aspiration est suffisamment sincère et si votre résolution est suffisamment sincère, vous êtes sûr d'arriver au but. Mais si vous voulez faire le mouvement complémentaire, celui dont Sri Aurobindo a parlé, c'est-à-dire revenir vers la conscience et le monde extérieur après avoir réalisé cette union en vous-même et transformer cette conscience et ce monde extérieur. Alors, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous limiter d'aucune façon parce qu'autrement, vous ne pourrez pas accomplir votre œuvre. Il faut que vous... Au fond, il faut que vous soyez capable de trouver cette unité avec le divin sous toutes les formes, sous tous les aspects, dans toutes les manières dont on s'est servi pour y arriver. Et il faut dépasser ça et trouver une manière nouvelle. Alors, le premier point à éclaircir dans votre pensée, et c'est un point qui est d'une importance capitale, il ne faut pas confondre une réalisation spirituelle qui peut être sur un champ très limité, puisque c'est un mouvement qui est seulement en profondeur. Vous pouvez faire percer un trou, n'est-ce pas, avec votre aspiration et un mouvement en profondeur à travers n'importe quoi. Tout dépend de l'intensité et de la sincérité de votre aspiration. Et de, n'est-ce pas, de... La sincérité, c'est-à-dire à quel point le don de vous-même est complet, intégral, absolu. Mais ça ne dépend pas de la forme que vous avez choisie. Vous serez, nécessairement, vous serez obligé de passer au travers et d'aller trouver ce qui est derrière. Mais si vous voulez transformer votre nature et votre être, et si vous voulez participer à la création d'un monde nouveau, alors cette aspiration, cette pointe aiguë et linéaire ne suffit plus. Il faut tout englober et tout contenir dans sa conscience. Naturellement, c'est beaucoup plus difficile.
Quel est l'élément dans l'homme qui demande la plénitude, la satisfaction de la plénitude spirituelle?
Et cette église superbe. Dans certains, il y a même certains éléments divins dans la nature humaine, les demandent toujours pour la plénitude de sa satisfaction spirituelle. Au sujet des symboles.
Qui demande une forme, qui demande une action dans la forme, une traduction dans la forme.
Oh, ce que je viens de lire aujourd'hui. C'est justement la partie de l'être qui ne se contente pas des abstractions. Et qui n'est pas satisfait en s'échappant, en s'évadant de la vie et en laissant la vie telle qu'elle est. C'est la partie de l'être qui veut être intégrale, qui veut être intégralement transformée, ou en tout cas qui veut participer intégralement à l'adoration intérieure. Il y a dans tout être normal la nécessité, le besoin, un besoin absolu de rendre physiquement ce qu'il sent et ce qu'il veut intérieurement. Ce sont des gens que je considère comme anormaux et incomplets qui veulent toujours s'évader de la vie pour se réaliser. Et au fond, c'est généralement les natures faibles. Mais ceux qui ont de la puissance, de la force et une sorte d'équilibre bien portant en eux-mêmes, sont un besoin absolu de réaliser matériellement leur réalisation spirituelle. Ils ne se contentent pas de s'en aller dans les nuages ou dans des mondes où la forme n'existe plus. Ils ont besoin que leur conscience physique et même leur corps participent à leur expérience intérieure. Maintenant, on peut dire que le besoin d'adopter ou de suivre, de participer à une religion telle qu'elle est formée, ça, c'est plutôt la nature troupeau dans l'être humain qui est comme ça. la chose vraie serait que chacun trouve la forme d'adoration, de culte qui lui est personnel, qui exprime d'une façon spontanée et individuelle sa propre relation avec le divin. Ça, ce serait la condition idéale. Tandis que d'adopter une religion ou parce qu'on est né dans cette religion ou parce que on connaît des gens que l'on aime et en qui on a confiance et qui pratiquent cette religion, ou bien parce que quand on va dans un endroit où d'autres prient et adorent, on se sent aidé dans sa prière et dans son adoration. Ça, ce n'est pas le signe d'une nature très forte, je dirais plutôt que c'est le signe d'une faiblesse et en tout cas d'un manque d'originalité. Mais vouloir traduire dans les formes de sa vie physique l'aspiration et l'adoration intérieure, c'est tout à fait légitime et beaucoup plus sincère que celui qui se coupe en deux, qui vit une vie physique d'une façon tout à fait mécanique et ordinaire et qui, quand il le peut, quand il a le temps, ou quand ça lui chante, se retire au-dedans de soi et s'échappe de la vie physique et de la conscience physique et va dans des hauteurs plus ou moins lointaines, trouver ses joies spirituelles. Celui qui essaye que sa vie matérielle soit l'expression de son aspiration la plus haute est certainement d'un caractère plus noble, plus droit et plus sincère que celui qui se coupe en deux et qui dit que la vie extérieure n'a aucune importance et qu'elle ne changera jamais, qu'il faut l'accepter comme elle est et qu'au fond, il n'y a que l'attitude intérieure qui compte. Dossier de questions augmente. Et je dois dire qu'elles ne sont pas toutes également intéressantes. Mais enfin, je pourrais peut-être en prendre une ou deux pour la satisfaction de ceux qui ont posé les questions. D'abord, il y a quelqu'un, n'est-ce pas, on a pris l'habitude de m'envoyer des questions sans me les signer, de peur que je révèle l'identité de celui qui a posé la question. Je ne la révélerai jamais, vous pouvez être tout à fait tranquille, et même si je fais quelques remarques désobligeantes, personne ne saura pour qui c'est. Mais enfin, il y a un autre point, c'est qu'il y a des gens qui ne prennent pas la peine de me poser les questions en français. Comme je n'ai pas prévenu publiquement que je ne répondrai qu'aux questions en français, j'en ai traduite une ou deux pour le moment. Mais à l'avenir, si vous voulez que je tienne en considération vos questions, il faut qu'elles soient exprimées en français. Même s'il y a beaucoup de fautes, ça ne fait rien, je les corrigerai. Il y en a une ici, justement, qui a été posée en anglais, et dont la, pour laquelle la réponse est très courte, c'est pour ça que je vais la prendre. On me demande quelle est la vertu fondamentale à cultiver pour se préparer à la vie spirituelle. Je l'ai dit bien des fois, mais c'est une occasion de le répéter. C'est la sincérité. Une sincérité qui doit devenir totale et absolue. Parce que seule la sincérité est une protection sur le chemin spirituel. Si vous n'êtes pas sincère, dès le second pas, vous êtes sûr de tomber et de vous casser le nez. Il y a toutes sortes de forces, de volonté, d'influence, d'entités qui sont là à guetter pour la moindre petite faille dans cette sincérité et qui immédiatement se précipitent par cette faille et commencent à vous désorganiser. Par conséquent, avant de rien faire, de rien commencer, de rien essayer, soyez sûr d'abord que vous êtes non seulement aussi sincère que vous pouvez l'être, mais que vous avez l'intention de le devenir encore bien davantage. Parce que c'est votre seule protection. Et alors la seconde question est comme ça, est-ce que cet effort pour cultiver la vertu initiale peut être collectif? Certainement ça peut l'être. Et c'est certain. C'est ça que l'on essayait dans l'ancien temps, dans les collèges d'initiation. Encore maintenant, dans les sociétés plus ou moins secrètes, les groupements très limités, on essaye de faire qu'une collectivité soit assez unis et fasse un effort collectif assez complet pour que le résultat soit le résultat d'un groupe au lieu d'être le résultat d'un individu. Mais naturellement, ça complique le problème terriblement. Chaque fois que l'on se réunit, on essaye de créer une entité collective. Mais pour qu'une vertu soit réalisée d'une façon collective, ça demande un effort formidable. Pourtant, ce n'est pas impossible. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Alors. Maintenant, j'en ai une autre. Qui est d'un ordre un peu plus subtil, mais qui me paraît avoir un intérêt assez particulier. C'est quelqu'un qui demande quelle est la vraie intensité pour vouloir le divin, dans la volonté de s'unir au divin. Et alors, cette personne dit ceci, qu'elle a trouvé en elle deux modes différents dans cette aspiration, surtout dans l'intensité de l'aspiration vers le divin. Dans un de ces mouvements, il y a une sorte d'angoisse, comme une douleur poignante. Dans l'autre, il y a une anxiété, mais en même temps une grande joie. Cette observation est très correcte. Et alors la question est celle-ci. Quand sent-on cette intensité mélangée à l'angoisse? Et quand sent-on cette intensité contenant de la joie? Je ne sais pas si plusieurs ou beaucoup d'entre vous ont une expérience analogue, mais elle est très réelle, cette expérience, très spontanée. Et la réponse est très simple. Dès que la présence de la conscience psychique est uni à l'aspiration, l'intensité prend un caractère tout différent et comme rempli de l'essence même d'une joie inexprimable. Cette joie est comme quelque chose qui est le contenu de tout le reste. Quelle que soit la forme extérieure de l'aspiration, quelles que soient les difficultés ou les obstacles qu'elle rencontre, cette joie est là comme si elle remplissait tout et elle vous porte en dépit de tout. Ça, c'est le signe certain de la présence psychique. C'est-à-dire que vous avez établi un contact avec votre conscience psychique, plus ou moins complet, plus ou moins constant. Mais à cette minute-là, c'est l'être psychique, la conscience psychique, qui remplit votre aspiration, qui lui donne son vrai contenu. Et c'est ça qui se traduit par la joie. Quand ce n'est pas là, l'aspiration peut venir de différentes parties de l'être. Elle peut venir principalement du mental, elle peut venir principalement du vital, elle peut venir même du physique, elle peut venir de l'union des trois, elle peut venir de toutes sortes de combinaisons. Généralement, pour que l'intensité soit là, il faut la présence vitale. C'est le vital qui donne l'intensité. Et le vital est en même temps le lieu de la majorité des difficultés, des obstacles, des contradictions. Et alors, c'est la friction entre l'intensité de l'aspiration et l'intensité de la difficulté qui crée cette angoisse. Ce n'est pas une raison pour arrêter son aspiration. Il faut comprendre la raison de cette angoisse. Et alors, si on peut faire intervenir juste un élément de plus dans l'aspiration, c'est-à-dire la confiance dans la grâce divine, la confiance dans la réponse divine. Alors ça contrebalance toutes les angoisses possibles. Et ça fait que on peut aspirer sans trouble et sans crainte. Cela nous amène à une autre chose qui n'était pas positivement une question, mais qui était une demande d'explication, de commentaire ou de développement de la question. C'est justement à propos de de la grâce. J'ai dit quelque part ou j'ai écrit quelque part que quel que soit la foi et la confiance que l'on a en la grâce divine, quelle que soit la capacité que l'on a de la voir à l'œuvre dans toutes les circonstances, à tout moment, sur tous les points de la vie. Jamais on ne pourra arriver à comprendre l'immensité merveilleuse de son action et la précision, l'exactitude avec laquelle cette action se produit. Jamais on ne pourra saisir à quel point la grâce fait tout et derrière tout organise tout, conduit tout. Pour que la marche en avant vers la réalisation divine soit aussi prompte, aussi complète, aussi totale et aussi harmonieuse qu'elle peut l'être, étant donné les circonstances du monde. Dès qu'on est en rapport avec elle, il n'y a pas une seconde dans le temps, pas un point dans l'espace qui ne vous montre d'une façon éclatante ce travail perpétuel de la grâce. Cette intervention constante de la grâce. Et une fois qu'on a vu ça, alors on sent que jamais on est à la hauteur de cela. Parce que il ne faudrait jamais l'oublier. Il ne faudrait jamais avoir des peurs, des angoisses, des regrets, des reculs, même des souffrances. Si on était en union avec cette grâce, si on la voyait partout, on commencerait à vivre une vie d'exultation, de toute puissance, d'un bonheur infini. Et ce serait la meilleure collaboration possible à l'œuvre divine.